OK, on va aller dans Apocalypse chapitre 2, les versets 8 à 11. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors, j'ai intitulé aujourd'hui, sermon d'aujourd'hui, d'une façon assez simple, « Lettre à l'église de Smyrne, sois fidèle même s'il t'en coûte la vie ». Dans le fond, l'idée fondamentale de ce passage-là, c'est ça, c'est d'être fidèle, même si ça peut t'amener à être obligé de sacrifier ta propre vie, parce qu'on va voir à l'intérieur du passage que les chrétiens de l'époque, certains, pas tout le monde, pas tous les chrétiens de l'époque, mais plusieurs chrétiens de l'époque ont été des martyrs, donc ils ont persévéré même au prix de leur vie, alors qu'on leur demandait d'adorer ou de présenter leur hommage à l'empereur de l'époque, donc prendre un homme les plus pourris qu'on ne pouvait pas trouver, puis d'être obligé de leur dire « je te considère comme un dieu ». Alors, il y en a qui ont dit « non, jamais je ne renierai mon maître, et si, même peu importe de quoi tu me menaceras, c'est non ». Alors, on va voir des exemples. Un exemple de ça ce matin. Dans son livre Apocalypse plus que vainqueur, le pasteur William Hendrickson, alors il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont acheté le volume là, sur l'Apocalypse, un bref commentaire, c'est pas un commentaire verset par verset, mais c'est plutôt un commentaire dans l'ensemble. Il a vécu de 1900 à 1982, donc c'est pas un homme qui a vécu dans notre époque, a écrit ce qui suit sur les circonstances de la mort de Polycarpe. C'est intéressant, poly, ça veut dire plusieurs, carpe, ça veut dire bénédiction, ça veut dire fruit. Donc, le nom même du nom Polycarpe veut dire beaucoup de fruits. Donc, c'est un homme qui a porté beaucoup de fruits. Et il était, à l'époque, il y a fort probablement qu'on pense qu'il était dans l'église de Smyrne lorsque Jean a écrit la lettre à l'église de Smyrne pour les encourager. Mais on dit qu'en l'an 155, donc il ne faut pas bien longtemps après, si le livre de l'Apocalypse a été écrit en 95, 155, ça se trouvait à peu près 60 ans après. Lui, il aurait été là lorsque la lettre a été reçue par l'église, et c'est là qu'on le menaçait que s'il ne présentait pas son adoration à l'empereur. Ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est qu'à cette époque-là, il y avait des villes qui se faisaient un honneur, celle qui était la plus fidèle à l'empereur. Et Smyrne était une ville où on se pétait les bretelles pour dire qu'on est la ville où on adore l'empereur. Et imaginez-vous quand vous êtes dans une ville comme ça, puis que la population, toute la population embarque là-dedans, et que là, tu deviens comme tossé dans le coin. Et ceux qui tassaient le plus les chrétiens dans le coin, c'était les juifs. Et on va le voir parce qu'il dit, tu te dis juif, puis dans le fond, tu es une synagogue de Satan, qui veut dire une assemblée. Une synagogue, c'est une assemblée de Satan. Autrement dit, les juifs qui attendaient le Messie, quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Dieu leur donne un qualificatif, maintenant vous êtes une assemblée de Satan. Et c'est peut-être pas un compliment qu'il leur faisait, là. Alors, je vais vous lire ce que pasteur William Hendrickson raconte sur Polycarpe. quand il y a eu, quand il a été menacé de, par l'empereur ou par les autorités romaines de l'époque d'adorer. Je vais vous lire ce qu'il raconte. Je trouve ça extraordinaire, c'est touchant, parce qu'on voit qu'il y avait des hommes forts à l'époque. Alors, il semble, d'après ce que j'ai lu, que Polycarpe aurait été nommé pasteur par Jean lui-même. Alors, Jean connaissait Polycarpe, alors c'était des gens qui ont vécu à peu près la même époque. Alors, voici ce qu'il dit. J'ai pris ce qu'il dit, puis je l'ai donné mot pour mot. Il dit, à la fin du 1er siècle, l'évêque de Smyrne était peut-être Polycarpe, un disciple de l'apôtre Jean. Cet homme vénérable est resté fidèle jusqu'à sa mort sur le bûcher en l'an 155 pour avoir refusé de dire « César est Seigneur ». On l'avait amené au stade et le proconsul l'avait pressé en ces termes. « Jure et je te laisse aller, maudit le Christ. » Polycarpe répondit, « Je l'ai servi 86 ans et il ne m'a jamais fait de tort. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? » Sur l'insistance du proconsul, le vieil homme répliqua, « Puisque tu insistes inutilement pour me faire jurer par le nom de César, et que tu prétends ne pas me connaître, laisse-moi te dire avec force que je suis un chrétien. » Au bout d'un moment, le préconsul lui répondit, « J'ai des bêtes, et je te livrerai à elles si tu ne changes pas d'avis. Puis, je te ferai brûler par le feu, puisque tu méprises les bêtes, si tu ne changes pas d'avis. » Mais Polycarpe dit simplement, « Tu me menaces d'un feu qui brûle un moment, et peu de temps après, s'éteint. Car tu ignores le feu du jugement à venir et du supplice éternel réservé aux impies. Mais pourquoi tarder? Fais ce que tu veux. » Peu après, le peuple, les Juifs en particulier, selon la tradition, se mit à entasser des fagots du bois sec. Et Polycarpe mourut ainsi sur le bûcher. Très intéressant de voir un homme qui était pasteur de l'église de Smyrne, qui était amené, forcé par les événements, ou tu maudis Christ, ou je t'envoie aux bêtes. Puis apparemment que j'ai lu l'histoire un peu plus longue racontée ailleurs. Il disait que je peux te donner aux lions et aux ours, parce qu'apparemment, il avait, imaginez-vous, tu prends un lion, tu l'affames, tu prends un ours, tu l'affames, puis après ça, tu mets un humain au milieu, là, tu le lâches, là, puis ça a des fins terribles. Mm-hmm. Mais semble-t-il que Polycarpe, il avait dit que ça ne faisait pas peur, les bêtes. Fait que là, il a dit, « Ouais, t'as pas peur des bêtes? » Il dit, « Moi, te fais brûler, moi! Mm-hmm. » Imaginez-vous que ça prend quelqu'un qui est sûr que le Christ va le soutenir. Hein? Mm-hmm. Parce qu'il ne faut pas penser que c'est gros. Des fois, on les voit comme des super-héros, comme des gens. Mm-hmm. C'est des êtres humains, même chose que nous. Mm-hmm. Excepté qu'ils étaient forts dans la foi et ils savaient que le Christ les soutiendrait dans l'épreuve. Mm-hmm. Imaginez-vous te faire attacher pour un proto, on te met des branches secs autour de toi et on met le feu là-dedans. Tu meurs pas tout de suite, là, comme de raison. Ça doit prendre un certain temps. Alors, ça prend un gars qui est déterminé, puis ça prend un gars aussi qui sait que le Seigneur va le soutenir dans toute cette épreuve-là. Alors, c'est intéressant de voir que, je disais dans un commentaire, il y en a un qui disait, c'est comme un avant-goût de ce que ça pourrait être lors de l'apparition de l'Antichrist. Ça va redevenir comme ça. On va te demander d'adorer l'Antichrist, sinon, ça va être des affaires terribles. Mm. Alors, si t'es pas préparé comme chrétien, ça va être risqué, comme on dit. Alors, à cause de leur profession de foi en Jésus-Christ, les chrétiens de cette époque perdaient souvent leur emploi à cause du fait qu'il appartenait à des guildes ou il appartenait à des. C'est comme des syndicats à l'époque. Tu ne pouvais pas avoir un métier si tu n'appartenais pas au syndicat, un peu comme aujourd'hui. Ça n'a pas changé beaucoup depuis ce temps-là. Et il faisait en sorte que si tu ne présentais pas ton adoration à l'empereur, c'est comme si tu n'étais plus membre. En étant plus membre, tu ne pouvais plus pratiquer. Dans une grosse ville, quand tu es dans une ville comme Smyrne, dans des grosses villes, si tu ne peux pas pratiquer ton métier, peu importe le métier que tu as, ben, tôt ou tard, c'est la pauvreté qui te guette, puis c'est la misère qui va s'installer. Alors, ils perdaient leur emploi, bien souvent, ça signifiait pauvreté, ça signifiait la faim, et parfois, on les emprisonnait, on les menaçait, et quand ils ne voulaient pas, on les envoyait en prison. Mais quand on les envoyait en prison, souvent, s'ils en ressortaient, c'était pour une exécution. Soit par les bêtes, ou soit brûlés vifs, ou des affaires du style. Alors, c'était souvent le martyr par les bêtes sauvages ou sur le bûcher. Alors, devenir chrétien à cette époque-là, ça représentait un véritable sacrifice. Bien entendu, si aujourd'hui, on avait à maintenir notre foi avec une pression telle, on verrait que les faux se départageraient des vrais assez rapidement. Ceux qui sont faux, ils s'en iraient. Ça représentait un véritable sacrifice. La pression pour céder au culte de l'empereur était permanente et énorme. Quand on dit énorme, la pression, pas une petite pression ordinaire, là, ça, c'est à fort. De tous les bords, de tous les côtés. Et les chrétiens étaient, bien entendu, entourés d'ennemis. Il y avait les Romains et il y avait les Juifs qui étaient particulièrement virulents et particulièrement, ils haïssaient. À partir du moment que les Juifs ont rejeté Christ, pour eux, le christianisme, c'était une secte. C'était, pour eux, c'était quelque chose de faux. Et les Juifs ont toujours eu de la facilité pour s'accommoder aux religions, aux autres religions et au culte de l'empereur. Ils trouvaient une façon de concilier dans leur esprit qu'ils pouvaient adorer l'empereur tout en étant juif, tout en croyant au Dieu d'Abraham, parce qu'ils se pensaient les fils d'Abraham. C'est assez spécial. Et eux, ils haïssaient les chrétiens d'une façon particulière. Et ils n'arrêtaient pas de leur faire du trouble et de les dénoncer. C'était à quelque part. Alors, les Juifs étaient vraiment des ennemis. Alors, ils étaient particulièrement, eux, virulents dans leurs attaques et dans leurs accusations. On avait vu dans le premier chapitre, et c'est là qu'on a besoin de se le rappeler. Le premier chapitre, quand le Christ s'est révélé à Jean, il s'est révélé sur certains traits. Bien sûr, Jean savait que Jésus était Dieu, il savait toutes ces choses-là. Mais il y avait certaines caractéristiques que le Christ lui a révélées dans le premier chapitre, qu'il avait besoin de se faire rappeler pour garder sa force devant tout ce qui se passait à cette époque-là. Alors, le Seigneur lui avait révélé avec plus de détails plusieurs choses. Son omnipuissance, qu'on appelle omnipotence. Si tu es dans une situation où tu souffres, puis tu sais que le Christ est ressuscité, puis lors de l'ascension, il monte au ciel, puis qu'il est omnipotent. Omnipotent, ça veut dire la puissance infinie. C'est-tu rassurant de savoir ça? Mais ça, c'est rassurant. Omnipotent, il n'y avait pas rien que l'omnipotence qui voulait leur rappeler, parce qu'il était en train de parler de différentes villes. Puis il leur dit tout le temps, je sais ce que tu vis. Comment ça se fait qu'ils pouvaient voir ce qui se passe à Éphèse? Comment ça se fait qu'ils pouvaient. Smyrne, t'as loin des 50, 60 kilomètres plus loin. Ça implique l'omniscience. Ça implique que peu importe où tu es, peu importe l'Église, que ce soit à Nantes ou que ce soit en Europe ou en Asie ou partout dans le monde, le Seigneur, il voit parfaitement tout ce qui se passe au niveau des Églises. Local, et il sait parfaitement ce qui se passe au niveau de la vie des individus qui composent les églises locales. Il n'y a pas un d'entre nous qui sait pas où ce qui est rendu. Il sait où on est rendu, spirituellement, psychologiquement, financièrement, santé. Quand tu dis que tu connais quelqu'un à la perfection, des fois, ça fait quand même 4 ans que si je commence à vous connaître un peu. Mais comparativement à Chris, je vous connais pas du tout. Tu sais, si je me compare à Chris, Chris, lui, vous connaît à la perfection. Depuis que vous êtes chrétien, même depuis que vous êtes au monde, même avant. Il dit qu'il nous connaît depuis toute l'éternité, qu'il nous a choisis en Christ. Donc, l'omniscience, l'omniprésence, ça l'implique que faut que tu aies confiance que peu importe la ville où tu te trouves, lui était à Smyrne, Polycarpe était à Smyrne, un autre était ailleurs, toutes les églises, et quand on dit, on vous a déjà dit, il nomme 7 églises, ça voulait-tu dire qu'il avait reçu 7 églises à l'époque? Ben non, c'était 7 églises que le Christ a choisi comme étant représentative de ce qui va de l'ensemble des églises de tous les temps. Dans chacune des églises, il y a des caractéristiques qui sont semblables à toutes les églises de toutes les époques, de tous les pays du monde. Ça y ressemble. Quand la semaine dernière, on a vu l'église d'Éphèse, il nous a dit « Vous avez abandonné votre premier amour. » Ben, c'est pas la première fois dans l'histoire des églises locales de tout du monde entier que le monde, que des chrétiens ont abandonné leur premier amour. Puis c'est pas la première fois non plus que des chrétiens, comme l'église de Smyrne, qu'est-ce qu'ils vivaient? Ils vivaient des affaires où tu renonces au Christ, où tu meurs. Mais prenez l'histoire de la réforme des années 1500, 1600. Il y a plein de monde qui ont passé par des circonstances semblables. L'Église catholique était déchaînée, puis si tu retournais pas à l'Église catholique, c'est ça qu'on te faisait, on te tuait. Ou bien non, tous ceux qui ont passé dans le temps qu'il y a eu comment on appelait ça, donc?
L'Inquisition.
Le mot me manquait. Mais c'est pas nouveau, ça a toujours été, puis ça va toujours être. Alors, l'omniprésence, c'est le fait de savoir, quand Christ se révèle, puis il vient te rappeler, je sais tout, je suis partout, et je suis tout puissant, et je suis présent partout. Et il veut te rappeler un autre fait qu'il est lui-même aussi, un gouverneur. Quand on parle d'un gouverneur, c'est quelqu'un qui gouverne, quelqu'un qui mène, c'est le boss. Ben là, il voulait que les gens, même si ça n'a pas l'air que tu es le boss, là, quand tu fais des choses, le Seigneur voulait y montrer que même si tu le perçois pas, c'est moi qui mène tout ce qui se passe sur la terre à tous les niveaux, même si tu perçois que les Romains sont plus forts que toi, qu'ils vont te mettre en prison, qu'ils peuvent te tuer, oublie pas que je suis au contrôle. Ça, c'est très rassurant de savoir que le Seigneur est gouverneur. Gouverneur souverain, ça veut dire que c'est lui qui décide. Et gouverneur absolu, ça veut dire absolu, il n'y a rien sur lequel il n'a pas la pleine autorité. Sur les Romains, sur qui que ce soit. Non seulement de la terre, de les villes et des églises qui parlent, mais de l'univers au complet. Quand tu parles, moi des fois là, il m'est arrivé des fois des nuits de me réveiller, puis de louer le Seigneur dans la nuit. Et quand je pense au Seigneur, moi je pense à la grandeur de l'univers. Et quand on pense à la grandeur de l'univers, il y a de quoi là nous... L'esprit elle devient comme... Tu n'es pas capable d'imaginer une puissance semblable. Et le Seigneur a dit qu'il est assez puissant pour rouler l'univers comme un manteau. Moi, si je prends un manteau, je vais le mettre sur le lit chez nous. Pas de musique, plier ça. Hein? Vous autres non plus. Hein? Mais lui est capable de faire ça avec l'univers. Je pense qu'il y a des mathématiciens qui l'ont déjà calculé là, en termes de poids. Ça. Et quand tu te mets à penser à ça. Puis le Seigneur te dit qu'on ne peut pas concevoir sa puissance. Même si ça m'impressionne bien fort quand je pense à ça, capable de rouler l'univers comme moi je roule un manteau. Mm-hmm. Le Seigneur il dit que tu connais pas toute sa puissance, même si tu sais ça. Là. C'est plus que ça. Alors, il y a le gouverneur, il a besoin de leur rappeler aussi, il avait besoin de leur rappeler qu'il était le souverain sacrificateur, celui qui maintenant est au ciel et qui intercède pour nous. Quand tu es dans une situation où tu souffres, puis tu sais qu'il y a quelqu'un qui pense à toi, puis il y a quelqu'un que pour toi, là, tu sais, quand tu es sur le bord d'être tué par, ben non, d'être jeté aux bêtes, quoi que ce soit, si quelqu'un te dit, il y a quelqu'un au ciel qui est conscient de ce que tu vis, il sait ce que tu es, ce que tu vis, puis il peut permettre que tu sois un martyr, mais il est là. Et c'est là la force du chrétien, c'est qu'il sait que Dieu ne l'abandonnera pas. Parce que si tu étais absolument sûr que Dieu t'abandonnerait, ces gens-là n'auraient jamais eu les comportements. Si tu lis les histoires de toutes les martyrs de toutes les époques, c'est presque toujours la même chose. Les chrétiens se comportent d'une façon admirable et sublime. Si tu penses que d'un coup sec, ils deviennent des héros, c'est parce qu'ils sont soutenus par la grâce de Dieu. C'est bien simple. Moi, je sais bien que je me calcule pas comme un gars super-héros, puis il m'arriverait, puis il me dirait, on va te jeter aux bêtes, ou ben non, on va te brûler. L'être humain, Marcel, le petit Marcel, là, il mourrait de peur. Mais le petit Marcel peut devenir le grand Marcel quand il est soutenu par le grand Seigneur, Jésus-Christ. Et là, à ce moment-là, je pourrais devenir un super-héros, mais pas parce que je suis un super-héros en soi. Je deviens un super-héros parce que je suis soutenu par la glorieuse et toute-puissante personne et gracieuse de Jésus-Christ. Donc, il était un prêtre, et il voulait leur rappeler aussi qu'il était un prophète, dans le sens capable de prédire l'avenir. Comme là, il leur dit que c'est pas fini. Vous allez être éprouvé, puis ça va durer 10 jours. On va le voir tantôt, le 10 jours, c'est pas probablement quelque chose de symbolique qui voulait dire pour une courte période. Alors, un prophète, pour que quelqu'un puisse te dire ce qui va se passer dans l'avenir, faut qu'il soit capable, faut qu'il soit divin. Et aussi, autre chose qu'il avait besoin de se faire rappeler, qu'il était un juge. Alors, le Seigneur, bien entendu, au cours de toutes les... Si vous regardez, il n'y a rien de plus intéressant que l'histoire de l'Église. Si vous voulez avoir du plaisir, là, puis voir la main de Dieu dans l'histoire, lisez l'histoire de l'Église, à partir du début. Et même dans le temps de l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament, là, à partir de l'an zéro, là, amené jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien de plus intéressant que ça. Parce que tu vois que toutes ces choses-là, l'intervention de l'ennemi qui essaye de mettre des bâtons dans les roues à la foi des chrétiens, c'est pas nouveau, ça a toujours été, puis ça va toujours être. Alors, ce qu'il veut te rappeler, c'est qu'il est au contrôle, les corses, et lorsqu'il décide de juger. Moi, je vois souvent comme le juge avec son marteau. Là, quand le marteau tombe, c'est le jugement. Les jugements du Seigneur, des fois, sont très sévères. Alors, on se souvient qu'à l'église d'Éphèse, il leur avait rappelé qu'ils étaient forts en doctrine, en discipline, mais qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Là, maintenant, ils changent d'église. Il a passé à Éphèse, il lui a dit leur force, il leur a dit leurs problèmes. Là, ils changent d'église. À Smyrne, ils n'ont pas de problème. C'est assez bizarre de s'arrêter à penser que la seule église, en tout cas, une des seules églises quand le Christ Seigneur ne fait pas de reproche, c'est une église qui est sous extrêmement forte persécution. Coudon, on a-tu besoin d'être persécuté pour être fidèle? C'est ça la question à se poser. Il semble que ça soit le cas. Et lorsqu'on est dans la souffrance, lorsqu'on est pressé, on est squeezé, emprisonné, maltraité, battu, c'est là qu'ils sont le plus fort. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà lu Will Brown, là, je ne me souviens plus, l'église persécutée, l'église, je ne me souviens plus du nom, un petit livre que j'avais déjà lu. Là, hein. En tout cas, autrement dit, l'histoire, c'est que quand les chrétiens sont dans des circonstances difficiles, c'est là qu'ils sont les plus forts. Puis quand les chrétiens sont comme dans nous autres, là, on vit dans la wawatte, là. Mais qu'est-ce qui arrive quand on est dans la wawatte? on s'endort. C'est en plein ça que le Seigneur nous dit. Alors, il y a danger de s'endormir quand on est dans la Wawat. Alors, l'église de Smyrne, le Seigneur, veut leur faire prendre conscience de leur richesse. Parce qu'il leur dit, il parle de sa pauvreté, mais il dit, « Mais en fait, t'es pas pauvre, t'es riche. » Après ça, il leur dit, il leur fait comprendre qu'ils sont fidèles malgré, et lui, le Seigneur aussi, est fidèle malgré ses apparences. Alors, ils sont riches en biens spirituels, sont riches en grâce, ils sont riches en fruits glorieux. Ils sont riches en fruits. Le Seigneur veut leur rappeler qu'il sait, parce qu'il leur dit, on va le voir dans le texte tantôt, veut leur rappeler qu'il sait parfaitement leurs circonstances. Pensez-vous que si le Seigneur permettrait qu'il arrive encore aujourd'hui des circonstances similaires à celles qu'ils ont eues à l'église de Smyrne à l'époque, qui nous aurait oublié, que là on se rapportait à dire, c'est là qu'on voit l'être humain. Coudonc, Seigneur, m'as-tu oublié? Non, il t'a pas oublié, il t'oubliera jamais. Il t'aime bien trop pour ça. Ça, c'est un autre. Des fois, quand je pense au Seigneur, des fois, que le goût de louer le Seigneur, je dis souvent, comment tu fais pour m'aimer? Il m'aime pareil. Peu importe ce que je fais, pas volontairement, là. Mais tu sais, des fois, tu es faible, tu fais des niaiseries. Mais le Seigneur, il t'aime pareil. C'est-tu rassurant, ça? Très rassurant. Alors là, ce qu'il vient le faire, le Seigneur, il vient leur prédire que leurs tribulations vont durer pour un moment déterminé par Dieu lui-même. Si tu vis des choses comme Polycarpe est en train de vivre et l'église de Smyrne, puis que le Seigneur vient te voir et il dit, ça va continuer encore pour un petit bout. Normalement, ça devrait être quelque chose qui nous encourage. Oui puis non. Dans le sens, oui, parce qu'il dit, ça va être pour un temps déterminé. Donc, tu sais que c'est lui qui a le contrôle sur le temps. Mais non, dans le sens que... Ouais, mais là, je sais que ça va très mal, que le monde se font tuer, se font envoyer aux bêtes, ils se font brûler vifs, etc., etc. Puis tu me dis que ça va durer. Y a-tu de quoi d'encourageant là-dedans? Oui, puis non. Alors, il veut les mettre en garde aussi contre les Juifs, ces accusateurs, calomniateurs et haineux. Qui sont des instruments et des serviteurs de Satan. Une calomnie, mais souvent, je me souviens trouvé quand j'étais jeune, nous faisait faire des confessions le vendredi, c'est toujours le vendredi après-midi. Là, il nous faisait mettre la tête, les bras sur le pupitre, puis il disait, là, pensez à vos péchés, puis là, tout de suite après, on allait voir un curé, il fallait se mettre à genoux devant le curé, puis dire nos péchés. Je disais souvent, j'ai fait trois calomnies, 2010 ans. Je savais même pas que ça voulait dire. Une calomnie, c'est d'accuser quelqu'un de faux. Quelque chose qui est faux, tu sais que c'est faux, mais tu le dis pareil. Tandis qu'une médisance, c'est dire quelque chose de quelqu'un qui est vrai, mais t'es pas nécessaire de le dire parce que c'est vrai. Nous autres, on a tendance à dire toutes sortes de choses mauvaises sur d'autres personnes, surtout quand ils sont pas là. On dit, ben quoi, c'est vrai. Et oui, mais pas quoi c'est vrai que tu as oublié de le dire, tu sais. Alors, le Seigneur ne manque pas de les encourager à persévérer, il leur dit de persévérer, de ne pas avoir peur. Il leur dit, n'aie pas peur. C'est facile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais on voit que les gens réussissaient. Moi, je trouve pas que c'est par leur courage personnel. Je suis convaincu que c'est la grâce de Dieu. Alors, quand on regarde dans le verset 8, on voit une déclaration qui est rassurante de la part du Christ. À Apocalypse 2, verset 8. « Écrit aussi à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, qui a été mort et qui a repris la vie. » Donc, le Seigneur connaît parfaitement les souffrances, les dangers et les tribulations que vivent les membres de son Église de Smyrne. et il va s'adresser à eux d'une façon instrumentale. C'est intéressant de voir qu'il ne fait pas juste dire à Jean, dis-leur. Écris-leur. Pas pareil. Le Seigneur nous a laissé l'écrit. Très important, l'écrit, parce que ça demeure l'écrit. Hein? Quand tu écris quelque chose à quelqu'un, s'il garde ce que tu as écrit, dans 20 ans, ça va être encore les mêmes mots. Là. Tandis que quand tu fais juste dire quelque chose avec ta bouche, des fois, 5 minutes après, tu dis « Qu'est-ce qu'il dit? » T'en souviens même pas. Alors, il sert de Jean pour écrire à son église. Et il se sert aussi d'un autre instrument, qui est celui du pasteur. Écrit à l'ange. Pas que les pasteurs sont des anges, mais le mot « ange » veut simplement dire « messager ». On est un messager. Quand on prêche au nom de Dieu, si on en prend trop conscience, on a le goût de sortir. Parce qu'on parle au nom de Dieu. Si on savait ce qu'on dit, puis vous écoutez au nom de Dieu. Vous écoutez Dieu qui vous parle par un instrument. C'est tellement rare qu'on prend vraiment pleinement conscience de ça, autant comme prédicateur que comme auditeur. Là. Mais quand on en prend vraiment conscience, là, c'est comme, oui, c'est Marcel qui parle le matin, mais Marcel, il parle parce que Dieu se sert de lui pour vous dire quelque chose, pour changer quelque chose en vous. Si on écoute un sermon et qu'on sort, puis qu'on ne retient rien, puis qu'il n'y a rien qui change dans nos vies, c'est parce que notre écoute est mauvaise. Donc, il sert d'un instrument, et il sert d'un instrument qui s'adresse à quelqu'un, à un groupe en particulier, il dit ici, à l'Église, qui veut dire l'Assemblée de Smyrne. Mais bien entendu, à cause des versets de la fin, qui dit que celui qui écoute entend ce que l'Église, ce que l'Esprit dit aux Églises, il est en train de vous parler à vous autres un matin aussi. Parce que si on lit ça, on dit « Ah, oh, OK, oh, ça se merde, il n'avait besoin d'entendre ça. » Mais dis-toi une chose, si tu es ici ce matin, c'est parce que toi aussi tu en as besoin d'entendre ça ce matin. Donc, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que quand le Seigneur s'adresse à une église, il utilise toujours un titre approprié. C'est-à-dire, il va ajuster le titre qu'il va se donner à la situation des gens qui vont écouter. Et à cette église-là, il utilise le titre « Le premier et le dernier ». Moi, j'aime bien John Gill, parce que, à un moment donné, des fois, tu lis un commentaire, puis là, le gars, il veut t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire « Le premier et le dernier ». Souvent, tu peux lire ça, « Premier et dernier », qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je sais pas, tu continues. Très grave erreur. Quand on étudie la parole puis qu'on comprend pas des mots ou qu'on n'est pas sûr qu'est-ce que ça veut dire, on a intérêt à fouiller pour aller voir qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Et là, je suis allé voir John Gill, parce que je respecte beaucoup John Gill, c'est un érudit. À côté de lui, là, un pou. C'était un gars d'une culture incroyable. Voici ce que lui dit, ce que ça veut dire le premier et le dernier. Alors, le grand érudit et pasteur anglais John Gill a commenté ce titre de Christ d'une façon éloquente dans son commentaire sur l'Apocalypse, au chapitre 1, au verset 8, sur le titre Alpha et Oméga. Ça veut dire la même chose. Premier, dernier, Alpha, Oméga, on parle de la même réalité. Il dit, ainsi... Il est l'alpha. Il parle de Christ. Là. Ainsi, il est l'alpha, le chef, quant à sa nature divine, étant Dieu sur tous, béni à jamais. Et dans sa filiation divine, aucun ange ou homme n'est en ce sens le Fils de Dieu tel qu'il est. Autrement dit, quand on parle du Fils de Dieu, on est des enfants de Dieu, mais on n'est pas le Fils de Dieu comme Jésus-Christ. On est aucun... Ne me compare pas avec Jésus-Christ, là. Il n'y a aucune comparaison possible. Il est en train de dire que Jésus-Christ, dans sa filiation divine, dans le fait qu'il soit fils de Dieu, n'est pas fils de Dieu au même titre que moi. Il est fils de Dieu d'une façon particulière, il est Dieu lui-même. Et dans toutes ses fonctions de prophète, de prêtre et de roi. Il est le prophète, le grand prophète de l'Église. Jamais homme n'a parlé comme lui, ni enseigné comme il l'a fait. Il est le plus excellent prêtre qui dépasse Aaron et tous ses fils, ayant un sacerdoce immuable. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il a la place principale dans l'Église. Il en est le chef et il a en toute chose la prééminence. Ça veut dire qu'il y a toujours la première place en toute chose. Il est le chef d'honneur et de dignité. Il est à la droite de Dieu et a un nom au-dessus de chaque nom. Ça, c'est pour expliquer Alpha. Prenez le temps, là, de vous arrêter chez vous. Relisez ce qu'il vient de dire là. Vous allez voir que c'est d'une richesse. C'est d'une richesse. Quand il dit « Je suis le premier » ou « Je suis l'alpha », lisez ça, puis méditez ce qu'il est en train de dire. C'est vrai qu'à ce moment-là, quand on prend conscience de ça, les chrétiens du premier siècle, Polycarpe et tous ces gens-là qui connaissaient la Bible beaucoup, pour eux, ça avait une résonance dans leur esprit. Et ensuite, on continue quand il dit, on peut aussi dire qu'il est en quelque sorte l'oméga. Alpha, c'est la première lettre de grecque. Oméga, c'est la dernière. Il est le premier, il est le dernier. Et tout ce qui est entre les deux, que ce soit au début de la création, aller jusqu'à la fin, il est en train de dire, c'est lui qui le contrôle. Il est en quelque sorte l'oméga, le dernier et le plus bas. Ça, c'est intéressant parce que je l'avais pas vu. Faites bien fin, vous, là. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, regardons ça, il me fait voir quelque chose. J'avais appris le dernier en voulant dire qu'il ait le contrôle jusqu'à la fin. Gil, il dit que ça veut dire le dernier et le plus bas. Il parle du Christ, puis il est en train de dire qu'il est le dernier, parce que quand il est venu sur terre, est-ce qu'on l'a considéré comme un roi, et comme un maître, et comme une personne à respecter et à aimer? Il était considéré comme un ver. On l'a méprisé, haï, maltraité. C'est ça qu'il est en train de dire ici. L'oméga, le dernier et le plus bas, comme dans son état d'humiliation. Il a été non seulement rendu inférieur aux anges, mais à l'homme lui-même. Il était méprisé et rejeté des hommes, et on le comptait à peine un homme et un ver. Il y a un verset quelque part qui dit... Il était comme un ver. Il était aussi apprécié qu'un ver. Et il s'est humilié, est devenu obéissant à la mort, même la mort de la croix. De plus, ses lettres alpha et oméga, étant la première et la dernière de l'alphabet, peuvent représenter l'ensemble. Et il semble que ce soit une expression proverbiale empruntée aux Juifs, qui utilise l'expression d'Aleph à tout. Eux autres, la première lettre, elle s'appelle Aleph, en hébreu, puis la dernière, elle s'appelle tout. Fait quand tu dis d'Aleph à tout, tu dis la même chose que de premier, dernier, puis l'alpha, l'oméga. Et pour toute chose, dont deux lettres de l'alphabet hébreu se trouvent au même endroit que celle-ci. C'est intéressant. Alors, quand tu consultes John Gill sur quelques versets que ce soit, tu es toujours profondément béni. Chose particulière pour John Gill, pourquoi mon admiration est si grande pour lui. Tous les versets de la Bible, à partir du premier de la Genèse jusqu'au dernier de l'Apocalypse, verset par verset, au moins l'équivalent d'une page, une page et demie. Vous imaginez-vous le travail qu'il y a là-dedans? C'est phénoménal. Des hommes de cette trempe-là, il n'y en a plus beaucoup de nos jours. Et il utilise aussi le premier et le dernier, donc il voulait y faire rappeler dans son esprit et à l'Église et à ces gens-là de cette époque-là. Il voulait leur rappeler aussi, vous vous en allez à la mort, mais n'oubliez pas que j'ai vaincu la mort. C'est ça qu'il est en train de leur dire, parce qu'il dit, qui a été mort, je suis le premier et le dernier, qui a été mort et qui a repris la vie. Il est en train de leur dire, je suis Dieu qui est capable de, humainement, son corps avait perdu la vie, mais il était capable de se ressusciter lui-même, l'esprit, L'Esprit de Dieu l'avait ressuscité, Dieu le Père l'avait ressuscité, et il avait contribué lui-même à se ressusciter. Alors, il était très important que ces gens-là se rappellent cela. Qu'ils utilisent ces titres-là à des gens qui vivent la situation que ces gens-là vivaient à cette époque-là, c'est très important. C'est tout extrêmement significatif de regarder le titre que le Seigneur utilise en proportion avec la situation que les gens vivaient, pour leur rappeler. Parce que dans le titre, il y a des choses extrêmement importantes que ces gens-là se devaient de se rappeler. Donc, le Christ rappelle aux siens, qui sont dans l'épreuve, qu'il a lui-même conquis le pire de ce que la vie a de pire. Il a triomphé de la souffrance et de la douleur, triomphé de la croix, triomphé du diable, triomphé du péché, triomphé de la mort elle-même, par sa glorieuse et puissante résurrection. C'est ça qu'il est en train de leur rappeler. Faites-en pas, petit gars, même si tu vas mourir, parce que moi, j'ai vaincu la mort. Et je suis là au ciel. Et si tu la perds, ta vie physique, tu ne perdras pas ta vie immortelle dans le ciel, éternelle. S'il y avait des gens qui avaient besoin de se faire rappeler ça, c'était bien eux autres. C'est à titre de sauveur ressuscité et monté au ciel lors de son ascension qu'il s'adresse à ses élus. Il est encore actif et marche au milieu de ses églises. Et on avait vu ça dans le chapitre précédent, il dit qu'il marche au milieu de ses églises. L'idée, c'est qu'il n'y a rien de ce qui se passe dans ses églises qui ne lui échappe. Il est actif. Ses yeux sont pénétrants comme une flamme de feu. Et il connaît chaque détail et chaque situation de son Église, tant individuellement que collectivement. Intéressant, hein? De se souvenir, de penser, des fois, on pourrait dire, « Oh oui, mais il connaît les grosses églises où il y a 200 membres, ou 1000 membres, ou 2000 membres. Il y a des églises qui sont énormes. » La petite église de Nantes, là, il nous connaît. Il sait où qu'on est. Il sait ce qu'on fait. Puis il nous connaît tous individuellement. Il sait ce qu'on est rendu spirituellement. Alors, il y a des leçons pour nous ce matin là-dedans. Et aussi, il sait tout sur la société dans laquelle nous vivons et comment toutes ces choses-là viennent nous affecter dans notre témoignage pour lui. Quand la situation, quand la société va mal autour de nous, que le péché croît, quel effet que ça a sur nous? Qu'on devient de plus en plus zélé, qu'on parle de plus en plus du Seigneur? Normalement, ça a l'effet contraire. Plus le mal est développé autour de nous, plus on a tendance à se la former. On a peur de se faire rejeter. On a peur d'être haï. On a peur d'être maltraité, etc., etc. En tant que sauveur omniscient, il vient et nous parle avec amour où nous vivons et nous appelle à trouver notre source de bonheur et de force et de vie en lui. Autre chose que je pense que le texte nous enseigne aussi, c'est le fait que c'est la présence de Christ est éclairée. Alors, cette Église et son pasteur représentent l'état de l'Église sous les persécutions des empereurs romains. Très intéressant, le nom de Smyrne. On ne s'arrête pas, des fois, ça veut dire « myrrhe ». Et quand le Christ est venu, les rois, qu'est-ce qu'ils ont présenté de l'or, de l'encens et de la myrrhe, ça représente la souffrance, la myrrhe. Donc, la myrrhe a été quelque chose qui était nécessaire. Alors, semble-t-il, ça a un goût amer. Je vais jamais goûter, là, mais... et ça l'exprime des afflictions amères et les persécutions que ces gens-là, et les morts que ces gens-là voyaient autour d'eux. Et ça représente le peuple de Dieu qui endure durant cet intervalle de temps. Très intéressant, même le nom Smyrne. Les Écritures, j'ai pour dire, hein, tous les mots sont importants. Tous les mots sont importants. Quand tu lis les Écritures, il n'y a pas un mot que le Seigneur a laissé là, qui n'a pas son importance. Même le mot « Smyrne », si on donnerait la peine d'aller fouiller, de comprendre que ça veut dire « myrrhe », il y a toute une idée là-dedans. C'est là qu'il nous manque des fois, il nous manque de la méditation. Et pourtant, comme la myrrhe, elle a une odeur douce. Elle était en même temps, de ses saints dans leur souffrance pour Christ, extrêmement reconnaissant et agréable à lui. C'est pourquoi rien n'est dit en guise de plainte à cette Église, non pas qu'elle était sans faute, bien entendu. Le Seigneur n'est pas en train de dire, écoutez les petites églises de Smyrne, vous êtes parfaits. Certains n'étaient pas parfaits. Mais la manière dont ils vivaient, ce que Dieu permettait qu'il leur arrive, ça c'est admirable. Et quand Dieu voit que son peuple fait tout son possible pour demeurer fidèle, malgré les difficultés, le Seigneur approuve. Et il ne leur fait aucun reproche. Certains, s'ils avaient voulu, ils en auraient fait des reproches. Mais ils ne les en font pas. Parce qu'ils n'ont pas besoin de reproches, ils ont besoin plus d'être encouragés. Alors, bien entendu, il vient à eux et il utilise avec tendresse et il leur parle dans leur état d'affligé. Et comme la myrrhe a été utilisée pour l'embaumement des cadavres, cela peut indiquer les nombreux décès et martyrs des saints durant cette période-là où leurs noms et souvenirs ont été perpétués et éternisés. Très intéressant. Juste le verset 8, là, il y a plein de choses à regarder. Deuxième chose. Oups, ça a le temps passé. Bon, mais je pense qu'on va arrêter cela ce matin. Le temps a passé plus vite que je pensais. OK, on va arrêter cela. On continuera la semaine prochaine.